Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon, mais aussi Maïder Gérard, Marguerite Caton, Corentin Mansois, réalisée par Rafik Zénine et mise en onde ce matin par Jean Frédérics. Troisième volet de notre série consacrée aux épidémies. Après avoir parlé des mouvements anti-vaccins lundi, puis des politiques de lutte contre le sida VIH mardi, place aujourd'hui à ce qui n'est pas une épidémie au sens virologique du terme, mais qui s'étend à grande vitesse, qui suscite énormément d'inquiétudes. La crise dite des opioïdes, en effet, depuis plusieurs années aux États-Unis, il y a une augmentation inédite d'utilisation d'opioïdes. Crise des opioïdes, l'Amérique en overdose, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Waouh, je me sentais super bien. Je pouvais marcher, nager, faire du sport, des activités normales sans souffrir. Pour moi, c'était un médicament miracle.
N'ayez pas peur de prendre ce qu'ils vous donnent. Certains patients peuvent craindre les opioïdes, car ils pensent que c'est trop fort ou addictif. Mais ça, c'est loin de la vérité.
J'ai arrêté de la prendre. Et j'étais à l'agonie. J'ai pris l'argent prévu pour mon crédit voiture et je suis allée m'acheter mes pilules. Ça, c'était le premier mois. Ensuite, j'ai pris l'argent prévu pour la voiture, pour le crédit de la maison, pour la nourriture, pour mes pilules.
Moins de 1% des patients sous opioïdes deviennent dépendants.
Ce sont des dealers de drogue, des dealers légaux, mais des dealers. Si vous allez chez le médecin demain et qu'il vous prescrit de l'oxycontin, écoutez-moi, partez en courant.
Le 29 mars dernier, un laboratoire pharmaceutique américain, Purdue Pharma, fabricant justement de l'oxycontin, un antidouleur à base d'opiacés, a accepté de payer 270 millions de dollars pour mettre fin à une plainte de l'État de l'Oklahoma qui reprochait à l'industriel d'avoir favorisé la dépendance de milliers de patients. Nombreuses sont les actions en justice menées ces dernières années par des États contre des laboratoires ou des fabricants de ces médicaments. Prescrits à haute dose et sans encadrement, ils sont responsables de la plus grande crise sanitaire actuelle aux États-Unis. La dépendance aux opioïdes est devenue l'une des premières causes de mortalité du pays, avec 70 000 personnes décédées d'une overdose en 2017, c'est-à-dire plus de 6 fois plus que le nombre de personnes tuées par arme à feu la même année. La crise des opioïdes est un problème à grande échelle qui se propage, difficile à contrôler par les autorités, à tel point que le gouvernement fédéral a décrété l'état d'urgence sanitaire il y a maintenant 2 ans. Alors, comment l'Amérique en est-elle arrivée là? Comment une telle crise sanitaire a-t-elle pu s'installer dans le pays le plus riche du monde? Qui sont les responsables? Que nous apprend cette épidémie d'un système particulièrement inégalitaire dans l'accès aux soins et d'un marché du médicament où tout semble permis? Que nous révèle-t-elle de la crise sociale, sociétale, économique, politique traversée par les États-Unis? Et quelles solutions pour les milliers, les millions de personnes tombées dans l'addiction aux opioïdes? Pour évoquer toutes ces questions, d'abord, nous avons invité Romain Huret, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien, directeur d'études à l'EHESS, un spécialiste des inégalités aux États-Unis, auteur de plusieurs ouvrages, je pense notamment à l'Amérique pauvre qui était paru aux éditions Thierry Magnier, mais vous êtes en préparation d'un nouvel ouvrage. À vos côtés, Daniel Hannequin, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes vous psychiatre et anesthésiste. Il nous fallait un spécialiste de la douleur et vous êtes donc avec nous et vous connaissez particulièrement aussi cette crise des opioïdes aux États-Unis. Romain Huret, je vais commencer avec vous. Octobre dernier, à quelques jours des midterms, vous signez un papier dans AOC dans lequel vous revenez justement sur la crise des opioïdes et aussi sur l'épidémie de suicide qui touche notamment les soldats. Et pour vous, cette crise des opiacés, elle est évidemment une crise sanitaire, mais elle semble au fond symptomatique d'un mal beaucoup plus profond qui touche la société états-unienne et peut-être aussi qui a permis au fond à Donald Trump d'arriver au pouvoir. Rien que ça.
Oui, je pense, puisque dans les propos de Trump, hein, il y avait une angoisse, une inquiétude, ce qu'il a appelé le carnage américain. Hein, et une partie de ce carnage américain se dévoile hein, dans la crise des opiacés, où, comme vous l'avez dit, c'est devenu l'une des causes de mortalité les plus incroyables, hein, les plus étonnantes aux États-Unis, que beaucoup n'ont pas vu venir. Et donc, depuis 20 ans, l'Amérique est entrée dans une phase d'épidémie hein, tout à fait étonnante. Mmh. Et beaucoup d'hommes politiques, d'intellectuels, de simples citoyens s'inquiètent terriblement des ravages exceptionnels de cette crise.
On reviendra évidemment sur cette crise sociale, sur les réponses politiques qui sont apportées et peut-être aussi sur la manière dont ça a été aussi instrumentalisé par Donald Trump. Daniel Hannequin, est-ce qu'on a d'abord une idée un peu du nombre d'Américains qui sont aujourd'hui dépendants aux opioïdes? Il y a des données là-dessus?
Bien sûr, on a... C'est... dizaine de millions, je crois, on dit actuellement, et les 70 000 décès par overdose d'opiacés annuels, il y en a les 65, ou les deux tiers, on va dire, qui sont liés à des médicaments opiacés médicalement prescrits, hein, qui sont liés donc à des antidouleurs. Hein. Et les autres, il y a les décès classiques d'overdose aux opiacés par héroïne, etc., ou avec toute la cocaïne et tous les stimulants qui existent aussi sur le marché, qui tuent aussi pas mal.
Plus de 10 millions de dépendants, ça veut dire, j'imagine, que évidemment, glisser dans la dépendance à ces opioïdes est extrêmement rapide.
En effet, là, il y a eu, alors ce phénomène, moi je dis de manière un peu provocatrice, c'est en effet un fléau, une catastrophe sanitaire qu'on a rarement vue, mais c'est un superbe succès commercial. Parce qu'en effet, on voit la conjonction, en effet, de toute une série de facteurs médicaux sur la douleur. En effet, là, on a été, pendant des années, moi j'étais un acteur, parce que j'étais responsable du plan douleur, hein, du deuxième plan douleur, on a sensibilisé les professionnels, la douleur, elle doit être traitée, etc. Hein, ça, et c'était vrai, hein, moi d'autant plus que je m'occupe de douleur des enfants, et on était loin d'être dans une position optimale. Mais là aussi, on a vu les labos qui ont chevauché tous ces messages, et là, il y a eu le problème de la douleur chronique, hein. C'est des douleurs où on a beau faire tous les bilans, on trouve rien. Et là, en effet, il y a toute une souffrance psychique, et ces opiacés vont
répondre
parfaitement, comme leur action psychotrope, avoir un effet positif chez ces patients.
Romain Huret, je disais dans mon introduction, il y a quelques jours, c'était fin mars, hein, c'était vraiment il y a très peu de temps, ce laboratoire Purdue, donc, qui produit cet oxycotin, a accepté de payer 270 millions de dollars pour mettre fin à une plainte de l'État de l'Oklahoma, dans le cadre, comme souvent aux États-Unis d'un accord à l'amiable. Qu'est-ce qu'on a reproché? Qu'est-ce qu'on reproche à ce laboratoire? Et de façon plus générale, quelle responsabilité pour ces laboratoires dans cette crise des opioïdes aux États-Unis, Romain Huret?
Ce qu'on reproche concrètement à ces laboratoires et surtout à Purdue Pharma que vous avez évoqué, c'est d'avoir menti sur les conséquences les conséquences graves pour les patients dès la mise, la commercialisation des opiacés. Et il faut revenir un petit peu en arrière, hein. C'est à la fin des années 90 Purdue Pharma décide de commercialiser ce médicament, et notamment l'oxycotin. Et des tests de laboratoire et des premiers retours des docteurs indiquent des effets délétères extrêmement graves et une forme de dépendance pour les patients. Et l'entreprise décide de mettre de côté, de ne pas entendre ce qui commence à remonter. Et depuis les actions en justice, il y a eu des enquêtes. Il y a eu des témoignages, il y a eu des fuites aussi au sein de Purdue Pharma. Et donc les Américains et les États reprochent ce mensonge de la part de l'entreprise qui aurait eu les effets extrêmement graves pour les patients. Et donc on a des plaintes qui sont remontées de la base, de gens qui ont eu l'impression d'avoir été trompés, puisque ce médicament, comme il a été dit précédemment, devait redonner du bonheur, retrouver le swing avec l'oxycotin.
Retrouver le swing, c'était le slogan.
C'était le slogan au début faire taire ces petites douleurs, parce que le laboratoire cible véritablement des petites douleurs. Ils estiment que celles-ci ne sont pas prises en charge par d'autres entreprises, et donc ils vont cibler ces petites douleurs, et ils vont créer ce désastre sanitaire. Et donc les Américains se retournent contre eux aujourd'hui en disant « Vous ne nous avez pas tout dit, et on a été trompés sur la marchandise, avec des conséquences extrêmement graves pour des gens qui sont morts, mais je rappelle que ces gens ont des familles, et bien souvent ce sont les familles qui se retournent contre Purdue Pharma. »
Daniel Hanequin, les laboratoires savaient et ils ont caché.
Oui, alors en plus...
Approchez-vous du micro.
En plus, on voit qu'en 2007, ils avaient déjà été condamnés. 630 millions de dollars, ce qui est énorme, une des plus grosses amendes qu'un laboratoire puisse avoir, enfin aux États-Unis en tout cas, et que malgré ça, ils ont intensifié leur marketing, et en effet, ils ont ciblé les médecins généralistes, et il y a eu encore une fois, ils en ont vendu encore plus. C'est ça qui est... Et l'autre élément...
Ça veut dire, qu'à l'époque, en 2007, on s'est contenté de leur mettre une amende, mais on n'a pas essayé de réguler, de contrôler quoi que ce soit.
Voilà, c'est là qu'il y a un autre problème majeur, je pense, dans ce dossier, c'est le fait que malgré ces alertes, tout le monde voyait qu'il y avait des morts dans les Appalaches, on voit bien tous ces reportages, les pharmacies, les pile-mille où les gens faisaient la queue pour avoir ces opiacés, tout le monde savait que ça allait pas, qu'il y avait des problèmes. Et ben on a continué parce que il y a une aussi une faillite des mécanismes de régulation, notamment toute l'administration, le CDC qui est le CDC d'Atlanta qui a une bonne réputation, ben tous ces organismes qui ont des milliards de dollars dans leur budget, ils ont rien vu venir.
Mais Daniel Hanequin, je comprends bien évidemment ces laboratoires mettent la pression pour commercialiser ce produit parce que ça rapporte énormément. Mais enfin quand même, il y a quand même un moment où il y a des médecins et des médecins qui prescrivent ces produits-là. Alors, est-ce qu'il ne faut pas aussi mettre une part de la responsabilité sur ces médecins qui n'ont pas hésité, qui ont peut-être trop prescrit ces produits ?
Alors, le problème des médecins, il y a plusieurs portes d'entrée. D'abord, ils sont notés, les médecins. Et si en effet, s'ils ne prescrivent pas, ils ont une mauvaise note sur Internet. Donc la réputation, vous imaginez un peu cette spirale infernale. Et en plus, c'est vrai qu'on a eu ce discours, et j'en ai fait partie, mais on disait, mais non, il n'y a pas les risques. On a dédiabolisé la morphine. Et c'est ça qui est important à voir, que la morphine, les morphiniques, les opiacés, au départ, c'était le paradis. À la fin du 19e siècle, jusqu'en 1910-1915. Et là, c'est devenu le diable. Le diable, et là, en effet, c'était un fléau social. Des milliers de médecins américains ont été virés du Conseil de l'Ordre parce qu'ils prescrivaient trop de trucs. Et ça a été jusqu'aux années 50 où là, on a repris la morphine. Les anesthésistes, notamment, ont dit, mais c'est génial, la morphine, finalement. C'est pas tant le diable que ça, dans la douleur aiguë, dans la chirurgie de guerre, etc. Et là, il y a eu les conciliations douleurs. Et là, on a été tout puissant. On pensait être tout puissant. Et là, on a fait des conneries. Voilà.
Romain Huret, sur la responsabilité des médecins qui, effectivement, comme le dit Daniel Hanequin, du coup, ont cette pression de la notation et donc peut-être ont tendance à trop les prescrire. Mais il y a aussi un autre fait sur lequel je voudrais vous entendre, Romain Huret, c'est que, donc, il y a eu ces 270 millions là, payés par le laboratoire, mais j'ai appris que deux jours après, une nouvelle plainte a été déposée à l'encontre de Purdue. Pourquoi ? Tout simplement parce que Purdue est en train peut-être de soustraire, de prélever quelques fonds à droite à gauche pour les mettre de côté. Est-ce qu'il faut comprendre qu'en gros, cet industriel de la pharmacie est en train d'organiser son insolvabilité pour peut-être demain, dans de futurs procès, ne pas avoir à payer ?
C'est tout à fait possible, je resterai prudent, puisqu'il faut avoir confirmation.
Ils ont nié évidemment tout ça dans un communiqué, mais visiblement, le procureur de New York a l'air d'être assez clair.
Mais la stratégie de Purdue a toujours été la même, elle accuse les individus d'être responsables de cela. C'est-à-dire que depuis le départ, ils disent notre médicament fonctionne, depuis nous faisons des antidouleurs depuis très longtemps, hein, parce qu'une entreprise qui a fait dès la fin des années 50, qui a mis sur le marché un certain nombre de médicaments pour mieux dormir, pour se sentir mieux, etc. Et donc l'entreprise dit notre médicament fonctionne, ce sont les individus qui en font un mauvais usage, qui l'ont coupé, qui l'ont utilisé à d'autres fins que ce pour quoi il est fait. Et donc l'entreprise continue à mettre en avant la responsabilité individuelle des patients et estime que ce médicament-là, pris dans des conditions normales et en respectant la posologie, c'est là peut-être ça revient à la question des médecins. Hein, les médecins n'ont pas demandé aux patients d'en prendre davantage, de le couper, ensuite de basculer vers l'héroïne ou vers d'autres drogues. Donc le laboratoire tient toujours la même position en disant nous avons fait notre travail et c'est aux patients de faire le leur.
De toute façon, ça peut pas être la faute de cet industriel puisque regardez, c'est une entreprise extrêmement généreuse, philanthropique, qui pendant des années a donné énormément d'argent à des universités, à des musées, etc. Il y a eu ce travail de construction de l'image d'une entreprise particulièrement généreuse et bienfaisante. C'est aussi ça qu'il y a derrière,
Absolument,
qui permet ensuite de vendre comme ça tranquillement tous ces opioïdes.
Tout à fait, oui, c'est la famille Sackler, qui est une très très grande famille américaine, qui a fait fortune dans le commerce des antidouleurs. Alors aujourd'hui, il y a un certain nombre de polémiques dans les universités et ailleurs, où on veut débaptiser les ailes, les galeries, les amphithéâtres qui portent le nom de cette famille, qui a fait fortune en créant ces désastres sanitaires.
On a même des musées qui ont refusé des dons très récemment, le Guggenheim de New York, le Tate de Londres, très récemment. Donc on voit que peut-être on est en train de rompre justement avec cette image supposément philanthropique et généreuse de cette industrie pharmaceutique. Daniel Hanequin.
Oui, donc ça c'est ce que font beaucoup d'industriels. Ça c'est pas spécifique à l'industrie pharmaceutique, en effet, de dorer leur image avec la philanthropie. Ça c'est quand même pas spécifique. Mais c'est vrai que là en effet on a poussé le bouchon très loin, très très loin, en effet, en se réfugiant derrière la responsabilité individuelle des patients qui en font qu'à leur tête, alors que derrière il y avait un marketing diabolique hein, sur en effet les spots à la télé, sur ma vie a changé avec ces médicaments. Et là, quand vous entendez ça et que vous êtes en effet dans une grand marasme psychosociologique, c'est souvent le cas de la douleur chronique, et ben vous allez demander ça à votre médecin.
C'est pas seulement le marketing, c'est aussi le lobbying. Alors je sais bien qu'aux États-Unis le lobbying a une place particulière et qu'il est parfaitement officiel, formalisé, etc. Mais quand même, la santé, c'est pas n'importe quel domaine, Romain Huret. Est-ce qu'il y aurait pas un travail à faire là, du côté de l'encadrement du lobbying pharmaceutique? Et est-ce que il y a eu des initiatives ces dernières années, alors soit des républicains, soit des démocrates, je pense plutôt du côté des démocrates, justement pour essayer de mieux encadrer ça? C'est pas n'importe quel secteur, le secteur de la santé.
Absolument, je pense que le scandale, je l'espère en tout cas, hein, poussera les élus au Congrès à faire davantage attention.
Ça veut dire que pour l'instant, il n'y a rien eu.
Le cas de l'oxycotin est tout à fait révélateur, hein, puisqu'on a appris par les enquêtes ultérieures que la personne au sein de la Food and Drug Administration qui a autorisé la commercialisation a fini par quitter l'agence fédérale et a trouvé un poste chez Purdue Pharma quelques mois plus tard. Ouais. Et un poste extrêmement bien rémunéré. Donc on voit très bien ce jeu dangereux entre entreprises pharmaceutiques et pouvoir politique. Les États-Unis ne sont pas un cas exceptionnel. Je pense que ça s'est fait dans d'autres lieux et en Europe notamment. Mais en tout cas là, on a bien vu qu'il y a eu un problème de régulation des médicaments et que tous les signaux hein, qui ont été tirés par des médecins qui ont révélé très vite hein, les dangers n'ont malheureusement pas été entendus.
Daniel Hanequin, là on parle des industriels, on parle des médecins, mais c'est pas seulement ça. C'est-à-dire les opioïdes, il y a aussi, alors pas dans un premier temps, mais a émergé au bout d'un certain moment un marché illégal vers lequel se sont tournés beaucoup de patients.
Oui, alors en effet, là aussi, ça a été la réaction il y a à peu près 5 ans, là justement, quand il y a eu ces procès et tout ça. Et donc, pour
dire... Alors attendez, il y a un petit téléphone qui doit vibrer, il doit en rester un qui doit encore être en marche, on va le mettre ou l'écarter ou le mettre sur vibreur, mais ça fait beaucoup d'interférences dans le micro, voilà, ça sera, c'est réglé, parfait, merci beaucoup. Je vous en prie, Daniel Hanequin.
Et donc, il y a eu... j'ai perdu le fil.
l'émergence de ce marché illégal.
Oui, c'est ça.
Alors, il y a quelques années avec les procès. 5 ans,
réaction très vigoureuse, drastique, à l'américaine. On tranche dans le vif, on donne ces médicaments. Bah, on va faire des médicaments qu'on peut plus trafiquer. On va mettre un antagoniste rapide. On arrête toutes ces pharmacies qui donnent des milliers de comprimés tous les jours. On va, les médecins, on va tracer leurs prescriptions. Et donc, du jour au lendemain, les gens qui étaient dépendants se retrouvent complètement démunis, en manque. Et donc là, en effet, ils vont aller vers l'héroïne et ils vont aller vers le marché illégal. Ils vont même prendre des comprimés qu'ils vont eux-mêmes dealer. Enfin, vous voyez, on est dans cette spirale infernale, implacable.
Romain Huret, vous êtes historien. À quand remonte la crise des opioïdes aux États-Unis? Parce qu'on en parle beaucoup là depuis quelques années, depuis en gros le début des années 2010, on en parle de plus en plus, mais en fait c'est bien avant que ça commence.
Ça commence à la fin des années 90, hein, mais, et même plus généralement, je crois que c'est aussi, on pourrait, tout au long du XXe siècle, hein, où il y a eu la volonté des grands groupes pharmaceutiques hein, de prendre en charge la douleur. Et donc il y aurait une histoire plus longue à écrire, hein, qui est cette prise en charge dans la longue durée hein, de la douleur, dans un pays qui a inscrit dans sa constitution le droit au bonheur. Et donc les individus doivent être heureux. Et c'est un vrai problème social, hein, un vrai problème. Il y a beaucoup de travaux, hein, notamment de collègues de l'EHESS qui travaillent sur l'injonction actuelle au bonheur. Hein. Nous devons être heureux, notamment dans un pays riche comme les États-Unis, hein, puisque c'est aussi une crise qui se produit dans un pays extrêmement riche.
Et puisque les opioïdes nous permettent d'être heureux, pourquoi s'en passer?
Exactement. Nous sommes.
Il y a un vrai raisonnement idéologique derrière tout ça.
Tout à fait. Et Purdue Pharma a toujours fondé le Valium et d'autres médicaments ont toujours été vendus avec cette idée que si ça ne va pas, on va trouver des moyens pour mieux dormir, pour aller mieux dans votre vie, pour vous entendre avec votre fille ou votre belle-fille. Et donc il y a une histoire longue, je crois, du traitement de la douleur et de l'effacement de la douleur. Voilà, le pays ne veut pas voir, ne comprend pas. En quelque sorte que les individus soient malheureux. Et sans surprise, Purdue Pharma a ciblé des États qui sont des États ruraux avec de vraies difficultés économiques et financières. On va y revenir sans doute. Mais parce que avec le sentiment que dans ces États-là, il y avait des populations qui étaient malheureuses, qui ne bénéficiaient pas de l'enrichissement depuis 20 ans, de la croissance économique, des nouvelles technologies. Et donc, il fallait aider ces gens qui ne l'étaient pas à être heureux.
On va faire une sociologie, une géographie, évidemment, de ces victimes des opioïdes. Mais s'agissant, Daniel Hanequin, de cette question de la douleur, est-ce que vous diriez qu'aux États-Unis, on a une approche peut-être différente, spécifique, et en particulier quand on compare avec la France, de cette question de la douleur ?
Oui, enfin, on est d'une part aussi dans la caricature du pays où la réponse est toujours médicamenteuse. Hein, on sait les dégâts des amphétamines chez les enfants hyperactifs. Hein, la ritaline, c'est une amphétamine. Et on voit 10% des gamins sont sous ritaline ou l'autre produit, hein, alors que c'est vraiment pas justifié. Enfin, la masse d'antidépresseurs qui est prescrite, enfin, le Valium, enfin, toutes les benzodiazépines et les tranquillisants. Là aussi, on est dans ce cadre-là qui explique en effet aussi pourquoi ces médicaments sont largement prescrits. Il ne serait-ce qu'il faut voir toutes ces séries américaines. Ils sont toujours en train de boulotter leurs pilules. Le Dr House, il prenait son Vicodin. Enfin voilà, on voit, c'est dans la culture américaine. Et en effet, alors pour la douleur, en effet, alors le problème de la douleur et la souffrance, qu'il va y avoir beaucoup de douleurs chroniques, ou en réalité c'est de la souffrance, ça veut dire qu'il faut faire une enquête psychosociale, il faut parler avec les gens, et ça prend du temps, et ça prend de l'argent, et c'est plus facile de faire l'ordonnance en 5 minutes, et puis tout le monde est content.
Romain Huret, quelle est aujourd'hui la sociologie des victimes de la crise des opioïdes? Quels sont les profils? Commençons par les profils concernés.
Les profils, d'après les données que nous disposons, sont des gens plutôt âgés, entre 35 et 50 ans, des gens qui ont connu des drames familiaux, des accidents de la vie. On a beaucoup de gens qui ne sont pas mariés, qui sont sans travail ou qui sont à la recherche d'un travail depuis de longues années et qui vivent pour l'essentiel dans des états voie de désindustrialisation ou de réindustrialisation, mais où la crise économique est toujours présente, palpable. Et c'est sans doute une des données qui explique la grande surprise et la grande violence de la réaction des Américains. C'est que cette crise, elle se produit dans des États qui n'avaient pas l'habitude de connaître de telles crises sanitaires. Puisqu'il faut voir que les États où il y a le plus grand nombre de morts sont des États comme la Virginie-Occidentale,
Ohio.
Le Kentucky, l'Ohio.
Rust Belt.
Exactement. Voilà. Et des États qui n'avaient pas connu les drames, les grands drames liés à l'épidémie de drogue dans les années 80-90, hein, que ce soit le crack ou l'héroïne ou la cocaïne. Hein, Washington DC, New York, Los Angeles, étaient des villes qui avaient connu cela et qui avaient mis en place des dispositifs. Là, tout d'un coup, on voit apparaître cela dans des états plutôt calmes, dans des toutes petites villes, où on voit le nombre d'overdoses exploser, on voit le nombre de gens accros aux drogues exploser, et on a vu également l'arrivée de trafiquants de drogue, hein, en provenance du Mexique, qui sont venus là, puisqu'il y avait un marché nouveau pour eux, dans ces états, et beaucoup de séries en ont rendu compte, hein, l'arrivée dans ces petites villes très paisibles, où on voit du jour au lendemain des individus qui n'étaient pas là jusqu'alors. Et donc on a une crise sanitaire tout à fait inattendue dans des états qui étaient plutôt paisible et plutôt calme jusqu'alors.
Et qui touche des populations qui n'ont pas forcément l'habitude d'être touchées par des crises liées à la drogue. En gros, quand on regarde un peu l'histoire des drogues aux États-Unis, très souvent, je caricature, mais on n'est pas très très loin de la vérité, c'est l'homme ou la femme afro-américaine qui sont touchés. C'est les Noirs, très largement. Là, c'est pas le cas.
Absolument.
Pas seulement,
mais en tout cas, pour la crise des opiacés spécifiquement, hein, ce sont dans des États où les Blancs sont majoritaires et où jusqu'alors il n'y a pas de tradition, hein, à la fois de crise sanitaire de ce type-là et de prise en charge, hein, de la crise, qui explique que beaucoup sont totalement démunis. Je dirais juste une chose, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, après l'élection de Trump, il décide de faire un tour des États-Unis pour se rendre compte de l'état du pays. Et au retour, il dit que la chose qu'il a complètement estomaquée, c'est la crise des opiacés. Puisqu'il a vu, c'est visible, c'est pas quelque chose qui se fait dans des maisons à l'extérieur. Vous allez dans des petits bourgs du Kentucky ou de la Virginie occidentale et vous voyez des drogués dans les rues, des hommes et des femmes âgés qui sont en manque. Et ça, c'est tout à fait exceptionnel et inattendu dans ces états.
Alors la question maintenant qui me vient, Romain Huret, c'est jusqu'où est-ce qu'on peut superposer cette sociologie et cette géographie des victimes de la crise des opiacés, des opioïdes, à la carte électorale de Donald Trump?
La crise n'explique pas...
Puisque vous nous disiez en début d'émission que c'était peut-être l'un des moteurs qui avait permis à Donald Trump d'arriver au pouvoir, alors...
La crise n'explique pas tout, n'explique pas l'élection de Trump, mais en tout cas, elle donne des indications intéressantes pour la comprendre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Trump a proposé une image extrêmement sombre et qui a surpris beaucoup de monde, y compris le jour de son investiture. Quand il parle de carnage américain, on s'attend pas à cela. Alors que son adversaire, vous vous souvenez, Hillary Clinton, a une vision beaucoup plus rose, beaucoup plus optimiste. Elle parle de nouvelles technologies, d'Amérique qui va bien, de gens de la mondialisation qui est formidable. Et lui, il nous dit, il y a une Amérique qui souffre, il y a une Amérique qui meurt. Et on peut comprendre que ce discours-là ait été entendu par une partie de la population qui a énormément souffert et qui se trouve complètement démunie. Je rajouterai deux points importants qui étaient dans le discours de Trump. L'un, c'est la corruption à Washington et le pouvoir des lobbies. Et on comprend mieux, du point de vue des individus eux-mêmes, comment ce discours-là a pu être entendu et compris hein, par ces populations qui ont eu l'impression d'avoir été trahies par Washington et pas trahies par les moyens de régulation. Et il y a un autre point très important, et même s'il est difficile parfois de le comprendre, c'est la question de l'immigration et l'insistance de Trump sur l'immigration et les trafiquants de drogue, les cartels mexicains, etc. Ce qui semblait une sorte de délire au départ, on disait il raconte des choses qui n'ont rien à voir, il fantasme sur la réalité. Ça a renvoyé, pour beaucoup d'Américains, et notamment dans ces États, à une réalité. On a vu arriver du trafic de drogue dans des petits bleds qui ne connaissaient pas jusqu'alors de tels trafics.
Vous écriviez dans votre article dont je faisais référence, auquel je faisais référence tout à l'heure, publié dans AOC, je vous cite, au cœur de sa campagne électorale de 2016, Donald Trump a su parler à cette Amérique sous antidépresseur. Là où Hillary Clinton s'émerveillait devant les réussites de la Silicon Valley et d'Hollywood, Trump parlait aux survivants du carnage américain. Il arrive quelques mois plus tard à la Maison Blanche et il prend donc une décision pour cette crise des opiacés. Écoutez.
My administration is officially declaring the opioid crisis a national public health emergency under federal law, and why I am directing all executive agencies to use every appropriate emergency authority to fight the opioid crisis.
Voilà, 2017, donc Donald Trump fait de la crise des opioïdes une urgence de santé publique. Il explique que les agences doivent tout faire pour lutter contre ce fléau. Cette annonce, Romain Huret, est-ce que c'est de la pure communication politique? Est-ce que c'est voilà de l'intérêt électoraliste pur et dur? Ou est-ce qu'il y a vraiment, de la part de Donald Trump, eh bien une sensibilité particulière à cette question-là?
Je crois qu'il a une sensibilité à son électorat. Il a très bien compris que les gens qui ont voté pour lui étaient très sensibles à cette question et souhaitent que quelque chose soit fait rapidement pour endiguer cette crise sans précédent. Ensuite, je crois que comme il a été dit précédemment, face à une telle crise, il n'y a pas de solution miracle. Le mur ne sera pas une solution miracle puisqu'il y aura d'autres canaux pour faire bien les médicaments. Et je crois, on le sait en France, ces traitements-là prennent du temps et supposent la mobilisation de très nombreux acteurs sociaux, médicaux, éducatifs. Et je suis pas certain que Trump ait en tête de repenser l'État social, de repenser les formes d'intervention du social dans ces États pour réussir à endiguer cette crise-là. Je le répète, il n'y aura pas de solution miracle. J'ai un peu l'impression que Trump espère une solution miracle.
Daniel Alquin,
oui,
pas de solution miracle.
Par rapport à ce que dit Trump, en effet, il y a cette réalité des trafiquants qui, en seconde intention, sont arrivés parce qu'il y avait du business à faire, comme tout trafiquant qui se respecte. Mais il ne pas du tout en cause les labos et le lobbying. Et pourquoi la FDA, pourquoi le CDC, qui sont payés, qui sont des gens performants, n'ont rien vu? Parce qu'en effet, il y avait des gens qui pantouflaient, évidemment, dans le privé, tout simplement. Et ça, c'est un problème de fond.
Il y a quand même un texte qui avait été voté au Congrès il y a quelques mois maintenant. On sait ce qu'il y a dedans. Moi, j'ai pas trouvé d'informations, mais peut-être que l'un ou l'autre en savent plus. Un texte qui a été voté par le Congrès. Alors après, je sais pas s'il a été le décret a été signé par le président, mais en gros, il y a une action politique ou pas derrière l'annonce de Donald Trump de dire oui, voilà, c'est une urgence sanitaire. Il y a eu quelque chose d'un point de vue législatif, Romain Huret?
Il y a une action. Il y a des promesses politiques de mieux réguler la mise en commerce des médicaments.
Il n'y a pas de nouveau texte.
Il n'y a pas de nouveau texte pour l'instant. Ouais. Il y a des textes qui sont en préparation et surtout les candidats se sont emparés de cette crise-là. On l'a vu pendant les élections de mi-mandat où beaucoup de candidats au gouvernorat ou à la Chambre dans les États avaient des propositions très concrètes, et notamment chez les démocrates, et qui étaient des propositions qui n'allaient pas dans le sens du mur ou de cette fermeture des frontières, mais qui allaient dans le sens, comme il a été dit, d'une plus grande régulation des lobbies et de mettre en place des dispositifs locaux éducatifs, parce qu'il faut aussi former les enfants, il faut former aussi les médecins, il faut former les travailleurs sociaux à cette crise extraordinaire. Et je crois que la solution viendra de là, viendra de la base, il viendra de la prise en compte de ce drame social.
Aujourd'hui, Daniel Hannequin, comment est-ce qu'on prend en charge précisément toutes ces personnes, ces millions de personnes, vous avez dit plus de 10 millions de personnes qui sont comme ça tombées dans la dépendance aux opioïdes. Très concrètement, comment est-ce qu'on les prend en charge? Est-ce qu'il existe un programme national, fédéral de prise en charge? Est-ce qu'il faut regarder état par état et ça change en fonction effectivement des lieux dans lesquels on se trouve? Enfin, comment on fait?
On voit déjà qu'en France, par exemple, il y a quand même des services d'addictologie, il y a des traitements de substitution, enfin, et on arrive à réduire les risques. Mais est-ce que là-bas, justement, c'est des méthodes drastiques, rapides, il faut qu'on ait des résultats, qu'on puisse présenter des pourcentages à la presse, mais souvent, ils ne font qu'aggraver. On a bien vu là, les mesures tout à l'heure, où en effet, ils ont précipité ces utilisateurs d'opiacés dans les bras des dealers d'héroïne ou d'autres opiacés. Il faut aussi rappeler que maintenant, c'est le fentanyl. Il y a un nouveau morphinique synthétique là, qui fait des ravages. Alors, c'est plus Purdue, c'est Assis, je crois, enfin une boîte. Et en effet, ça aussi, c'est des produits qui sont utiles pour la douleur, soyons clairs. Hein. Faut pas non plus cracher. C'est ça aussi le risque sur lequel je m'élève. Actuellement, on est en train de jeter le bébé avec l'eau du bain. Ces médicaments, les opiacés, restent des produits essentiels pour la lutte contre la douleur. Et on peut en prendre et on ne devient pas accro, mais il faut que les médecins soient au courant, et ils le sont en France, en effet.
Ça vous fait peur, vous, en tant qu'anesthésiste? Vous avez l'impression qu'on va rentrer là dans ère de diabolisation des opioïdes, et que c'est une mauvaise...
Dans l'opiophobie qu'on a connue, justement, sur laquelle on en a lutté il y a 25 ans, notamment chez les enfants, on veut surtout pas d'opiacés, alors qu'il y a besoin. Et puis nous, on a l'expérience, pendant la 20 ans qu'on en prescrit, on sait qu'il n'y a pas de risque. Par contre, sur des douleurs chroniques, sur des céphalées chroniques, et ça, c'est évident qu'on donne pas d'opiacés. Et nous, on était les premiers à en parler, parce qu'en France, des douleurs fortes, et Dieu sait si une migraine est une douleur forte, et surtout pas d'opiacés.
Mais quels sont les cas, alors? Quand est-ce qu'on dit, on doit donner des opiacés, des opioïdes?
Eh ben, c'est la chirurgie, déjà. Ouais. Hein, c'est la chirurgie. Alors, même si on va voir dans les reportages, ah oui, moi, j'ai été opéré, un petit truc, et je suis devenu accro. Alors, là aussi, il faut voir, en effet, que certains produits comme l'oxycontin favorisent quand même cette appétence. Et puis aussi, il y avait des prescriptions pendant 30 jours. Vous alliez aux urgences pour une entorse ou je ne sais quoi. Là, ça méritait peut-être des opiacés pendant 2-3 jours. Mais là, vous en avez pour 30 jours. Et donc, ça restait à la maison. Donc, 30 jours d'opiacés, ça permettait, en effet, d'autres usages.
Et on peut pas s'en passer. Alors, moi, je suis pas un grand spécialiste, mais j'ai vu qu'il y avait quelques alternatives. La Naxolane, la méthadone, le Subutex, peut-être plus connu.
Oui, alors.
D'abord, de quoi s'agit-il? Et est-ce qu'effectivement, ils sont de nature à se passer totalement de ces opioïdes dont on parle?
Alors, naloxone, Narcan, donc c'est un antagoniste. Hein, c'est-à-dire que ça, les opiacés sont quand même un des rares médicaments où vous pouvez déplacer les produits des récepteurs et vous antagonisez complètement un individu qui a une overdose, il perd connaissance. En 10 secondes, vous lui injectez son Narcan, donc, et vous allez. Mais parfois, c'est même violent, parce que ça peut être un certain nombre de sevrages en quelques minutes. Hein. Bon, ça, c'est la drogue.
Mais il n'y a plus les risques de dépendance qu'il y avait avec les autres.
Non, là, c'est un produit uniquement d'urgence pour contrecarrer les effets indésirables des morphiniques.
Ah oui, d'accord.
Alors maintenant, ils font en effet. Alors le paradoxe, c'est Purdue. Maintenant, se fait beaucoup d'argent en commercialisant un produit antagoniste associé à l'opiacé. Donc là aussi, on se dit parfois. Mais sinon, en tout cas, ça reste. Les opiacés restent des produits essentiels dans le traitement de la douleur aiguë, de la douleur post-opératoire, le cancer. On voit et surtout pas, voilà. Et c'est ça actuellement, faire cohabiter deux types de messages. Les opiacés, en effet, c'est le diable. Pour, en effet, dans certaines situations, il faut les éviter, mais dans d'autres, il faut les éviter. Et ça, c'est difficile d'avoir ces deux messages.
Romain Huret, je parlais tout à l'heure de la riposte fédérale de Donald Trump. Quand on regarde un petit peu les choses, on voit qu'il y a eu aussi un certain nombre d'initiatives au niveau des États, et peut-être avec des résultats intéressants, parce que on a noté des améliorations assez intéressantes en termes de nombre d'overdoses. Par exemple, une diminution de 30% dans le Wyoming, il y a eu une diminution de 12% dans l'Utah, il y a eu aussi des diminutions intéressantes du côté du Vermont, du Massachusetts, du Dakota du Nord, on est là sur des plafonds plutôt à 5-6%, mais c'est quand même une avancée. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place spécifiquement dans ces États-là pour obtenir ces bons résultats?
Oui, il y a une prise de conscience déjà de la part des élus qui ont mis en place des programmes d'aide. Hein. et des programmes de prise en charge médicale qui ont, comme vous le dites, c'est en train de baisser. Il y a eu d'autres catégories, il y a eu beaucoup de prises en charge catégorielles. Je pense notamment aux soldats. Dans les beaucoup d'anciens combattants ont été particulièrement touchés par la crise des opiacés et on leur a prescrit pour des raisons évidentes, hein, parce que beaucoup sont revenus avec des syndromes post-traumatiques. Des terrains afghans et irakiens. Et par exemple, dans l'armée américaine a décidé de mettre en place des programmes au sein des forts, des bases américaines, pour leur venir en aide. Et donc les anciens combattants, même s'ils ne sont plus enrôlés dans l'armée, peuvent avoir accès à l'intérieur des bases à des programmes de substitution, j'imagine, ou des programmes de prise en charge médicale. On a utilisé des jeux vidéo, par exemple, pour aider les soldats à comprendre les origines du stress et à ne pas avoir recours à ce qui est le plus facile, ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, on a eu tendance à tout de suite dire on va guérir en vous donnant des opiacés. Et donc là, il y a un début de réflexion qui se met en place pour comprendre les origines de ce recours massif aux opiacés et l'empêcher en amont.
Est-ce que ces réflexions, ces initiatives, elles sont plutôt le fait de démocrates ? Les États là dont je parlais, est-ce qu'ils sont plutôt dirigés par des démocrates ? Parce que la question qu'il y a derrière, c'est au fond, est-ce qu'il y a une approche différente entre le camp démocrate et le camp républicain s'agissant des questions sanitaires ? La réponse est évidemment oui. Traditionnellement, on se dit que le camp démocrate est plus en avance, disons, sur le camp républicain sur les questions sanitaires. Donc c'est une question qui se pose.
Oui, je pense que la différence entre les deux porte sur le rôle de l'État social. On a des démocrates qui sont davantage favorables à l'intervention de l'État fédéral dans son ensemble, hein, notamment par le biais du programme Obamacare, hein, qui doit permettre de venir en aide et d'aider à l'amélioration de la santé des Américains. Ça, c'est une ligne de clivage. Sinon, les deux parties sont tout à fait d'accord pour dire que le problème est national et que l'Amérique a affaire à une des crises les plus graves de son histoire.
Hein. L'Obamacare, il y avait des choses sur la crise des opiacés en particulier parce qu'elle était déjà là.
Déjà là, mais pas spécifiquement. En revanche, il y a des dispositifs de prise en charge sociale, notamment le programme Medicare, hein, qui ont permis aux Américains d'acheter les opiacés. Mmh. Et donc, beaucoup ont montré l'absurdité du système. C'est-à-dire qu'on a un programme fédéral financé par les contribuables qui a servi à enrichir une entreprise pharmaceutique qui a vendu des médicaments qui ont créé un drame social. Et donc, on a eu des critiques très fortes de ce rôle de l'État fédéral qui, mal pensé, mal contrôlé, peut enfanter des monstres. Et c'est le cas aujourd'hui.
Je vais vous donner la parole dans un très court instant, Daniel Hanquin. J'ai vu que vous vouliez réagir. Je poursuis un tout petit peu avec Romain Hureuil, parce que là, sur les questions politiques, je voudrais démêler la chose, parce que ça me paraît important. On comprend effectivement que cette crise des opiacés, des opioïdes, elle a été décisive politiquement. C'est une des raisons, un des moteurs de l'élection de Donald Trump. Il y a plusieurs questions qui se posent. C'est comment se fait-il que le camp démocrate ait pas été en capacité de répondre à cette crise sanitaire majeure, alors même que, a priori, comme je le disais, sur les questions sanitaires, traditionnellement, historiquement, les démocrates sont meilleurs que les républicains. Donc comment se fait-il qu'ils sont passés à côté? Et est-ce que sur ce plan en particulier, ils peuvent reprendre la main? Alors, bientôt des élections, hein. Quand je dis bientôt, c'est là, de 2020, ça va arriver très vite. Est-ce qu'on a pris conscience qu'il fallait maintenant reprendre la main et répondre à cette question-là?
Ils ne sont pas complètement passés à côté. Obama, avant de quitter la Maison-Blanche, fait voter une loi pour venir en aide aux victimes de la crise. Une loi qui s'est avérée insuffisante, donc ils ne sont pas complètement passés à côté. Mais je dirais, ils n'ont pas pris la mesure de la crise. Et les conséquences politiques, sociales, culturelles de cette crise dans les États. Parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas simplement des individus qui meurent. Ce sont des vivants qui restent là et qui ne comprennent plus. Et donc qui ont nourri une animosité très très forte vis-à-vis de l'État fédéral, vis-à-vis de Washington, vis-à-vis du Congrès, et qui ont trouvé en Trump le porte-parole de cette Amérique qui était écœurée par les lobbies, écœurée par le Congrès, écœurée par la politique traditionnelle. Et c'est en cela, je pense, qu'il a joué une carte qui a bien fonctionné. Et en se rendant dans ces États, on voyait beaucoup de gens qui étaient là en disant, en effet, le lobby est un scandale, Washington est un scandale.
Ils ont pris conscience là de leur défaillance en la matière?
Complètement. Là, on a vu pendant les élections de mi-mandat, tous les candidats démocrates misaient sur la solution à la crise des opiacés.
Voilà, c'est ça que je voulais entendre. Daniel Hanquin.
Oui, donc oui, j'abonde tout à fait. En effet, Trump a été probablement celui qui a parlé vrai. Et c'est ça qui a fait probablement une partie de son succès. Non, juste sur démocrate versus républicain, tout ce qu'on dit tout à l'heure, tout simplement, c'est la représentation idéologique qu'ils ont derrière la tête. Les républicains, c'est la responsabilité individuelle. Donc, la responsabilité collective, elle n'existe pas. A priori, les démocrates ont plus une vision sociale. Et c'est là, en effet. Et on voit bien que ce n'est pas des responsabilités individuelles, c'est du social, c'est de l'économie. économique qu'il y a derrière, c'est du profit. Alors ici, il y a un autre mécanisme de régulation qu'on n'a pas, qui a failli. Une entreprise, par exemple, qui a eu ces 680 millions de dollars d'amende, c'est du jamais vu. Habituellement, les actionnaires râlent, disent non, donc on va changer la politique. Là, ils ont fait l'inverse, ils ont augmenté. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'actionnaire chez Purdue. C'est une compagnie, justement, où c'est une famille qui. Et donc, il n'y a pas le mécanisme régulateur du capitalisme qu'on voit, où en effet, bah, les actionnaires, ils vont. C'est pas possible qu'on ait une image aussi.
Donc, l'entreprise familiale, ça va toujours de bon côté, c'est ça que vous voulez
dire. Mais là, non, mais c'est ça, moi j'ai découvert ça, justement. Et c'est ça qui a fait un des éléments, il n'y a pas que ça.
Ouais. Romain, quelque chose à dire sur ce point.
Je comprends, la famille était très divisée aussi. Hein. Il y a des membres de la famille qui se sont totalement désolidarisés du nom, hein, qui veulent et qui désormais ont absolument honte de porter ce nom de famille.
Ouais, les familles divisées, ça peut arriver. On est avec vous, Romain Huret et Daniel Hannequin, dans cette série consacrée aux épidémies. Aujourd'hui, crise des opioïdes, l'Amérique en overdose. On va prendre la direction de l'Afrique. Et oui, parce que ces dernières années, on constate aussi une augmentation très importante, très inquiétante des opioïdes du côté de l'Afrique, notamment du tramadol, un antalgique dérivé des opiacés, assez proche de la morphine qu'on appelle la cocaïne du pauvre. Le tramadol a littéralement inondé les rues des grandes villes africaines, au Gabon, au Ghana, au Nigeria, au Bénin, au Mali, au Niger, au Burkina Faso ou encore au Cameroun, comme là.
C'est l'un des produits même les plus sollicités pour le moment. Généralement, c'est les élèves, les policiers, les militaires, les étudiants, les motomans même, ils en consomment beaucoup. Nous avons ce qu'on appelle les passeurs, c'est comme ça qu'on peut les appeler. Et ils viennent, ils prennent un gros et puis c'est eux qui savent comment ils vont dispatcher ça dans les quartiers.
Voilà, donc ce témoignage sur le tramadol au Cameroun, extrait d'un reportage de France 24. On va retrouver Cher Touré depuis Dakar, qui est coordinateur régional de l'ONUDC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, pour le programme d'appui au plan d'action régional de la CDAO contre le trafic de drogue, la criminalité organisée et l'abus de drogue en Afrique de l'Ouest. Cher Traoré, l'ampleur du phénomène en Afrique de l'Ouest, est-ce qu'on a des chiffres, des données un peu fiables sur sa consommation?
On a eu pas mal de données parce que on a eu à mettre en place avec la CDAO un système de rapport de données sur l'abus des substances qui s'appelle le réseau Wendou. Et donc dès 2015, 71% des consommateurs d'opiacés au Nigeria utilisaient en fait des pilules de tramadol. Et là en ce moment, on est en train de faire une étude régionale pour connaître beaucoup plus l'ampleur de ce trafic au niveau des États de l'Afrique de l'Ouest.
Vous parlez de trafic, Cher Touré. Est-ce que je dois comprendre que le tramadol arrive en particulier en Afrique de l'Ouest par des voies totalement illégales?
Les indications que nous avons suggèrent cela parce qu'il ne passe pas sous le contrôle des directions de pharmacie et les saisies qui sont faites ne rentrent pas dans le cadre légal établi par les États pour recevoir ce type de médicaments.
Et d'où est-ce qu'il vient du coup? Où est-ce qu'il a été produit quand il arrive?
La plupart du tramadol saisi en Afrique de l'Ouest provient principalement de l'Asie centrale, notamment de l'Inde. Ces routes sont principalement la Méditerranée ou d'autres axes tels que en Afrique de l'Est, hein, le corridor costal, et à l'intérieur, dans le golfe de Guinée. Donc il y a eu des saisies assez considérables, aussi bien au Bénin qu'au Nigeria.
Oui, il y a très régulièrement des saisies très importantes. Voilà. Vous disiez qu'il échappait au contrôle des autorités, des pharmacies quand il passe les frontières. Une fois qu'il arrive sur le sol africain, qui et comment on assure la distribution de ce produit-là?
Mais quand je dis qu'ils échappent au processus établi par les États pour la distribution de médicaments, et ils passent par les containers, par les ports, ils utilisent les axes routiers, et donc c'est un système qui est assez sophistiqué, parce que c'est vrai que pour le moment, par rapport aux réseaux criminels qui sont impliqués dans le trafic du tramadol, on est peu équipé en ce moment pour savoir l'étendue du problème. On n'est aussi pas sûr aussi du lien qu'il y a avec les groupes bien établis qui sont en train de faire le crime transfrontalier organisé.
J'entends parfaitement les efforts qui sont réalisés, et d'ailleurs avec des résultats à la clé, par les États sur le contrôle des importations. Vous le dites, au niveau des ports, au niveau des frontières, etc. Mais quels sont les efforts qui sont faits par les États africains au niveau des réseaux eux-mêmes? Je veux dire, une fois qu'ils ont pénétré les différents États, les différents pays qui sont arrivés sur les sols africains, quels sont les efforts des États qui sont produits pour justement essayer de lutter contre ces réseaux de distribution cette fois?
Je prendrai l'exemple du Nigeria où ils ont établi un task force entre la National Drug Law Enforcement Agency, NDLA, et puis l'institution en charge de la distribution et de la qualité des médicaments distribués au Nigeria, NAFDAC. Et souvent, quand il y a ces genres de saisies, ils essaient de voir comment ces volumes sont rentrés au Nigeria et essaient de faire des campagnes de sensibilisation pour s'assurer que aussi les gens achètent les médicaments dans les pharmacies au lieu de les acheter dans les économies parallèles.
Et ça marche, ça a eu des effets, parce qu'effectivement, vous avez raison, le Nigeria, c'est un bon exemple. Il a placé le produit sous contrôle national en 2010, et puis ensuite, il a réglementé la vente et la consommation depuis 2013. Ça a eu des effets, très concrètement?
Bon, c'est pour ça, en fait, je pense qu'il y a eu une augmentation de ce type de saisie, parce que c'est vrai que le processus a été mis en place, mais est-ce que les États ont les moyens de contrôle, de suivi dans de vastes étendues territoriales pour faire ce type d'opération? Et donc, c'est là où, en fait, avec le travail que nous faisons pour le trafic de drogue, l'ONUDC est aussi en train d'aider les force d'application de la loi à s'outiller pour détecter ce type de trafic.
Pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas purement et simplement le tramadol?
Mais parce que le tramadol au niveau international n'est pas illégal.
Mais les pays africains pourraient décider d'interdire son importation.
Mais écoutez, monsieur, en ce moment où l'Afrique ne reçoit pas assez de morphine pour traiter les gens qui souffrent de douleurs, où il y a des gens qui vivent avec le cancer, qui n'ont pas d'autres méthodes de gestion de la douleur. Quelle serait leur alternative si on leur enlève pour le moment le médicament qu'ils utilisent pour subvenir à leurs besoins? Moi, je pense que la question serait de voir ce qui est possible en termes de capacité pour que les États puissent protéger la population contre le trafic illicite de faux médicaments et de médicaments tels que le tramadol.
Il y a évidemment ce que vous dites, Cheikh Touré, évidemment, bien sûr que les populations qui ont besoin de ce médicament doivent pouvoir y accéder, mais il y a aussi évidemment une question sanitaire derrière cela, parce qu'il y a toute une population qui a totalement sombré dans la dépendance au tramadol et qui n'en a pas médicalement besoin. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui par les États, en particulier en Afrique de l'Ouest, qui est vraiment la région sur laquelle vous penchez-vous, pour précisément prendre en charge toutes ces populations qui sont tombées dans l'addiction?
En Afrique, en ce moment, où il y a de nouvelles tendances d'abus, et le tramadol en est un, les pays sont en train de voir ce qu'on est en train de faire. Tout d'abord, la mise en œuvre des recommandations de UNGAS, c'est-à-dire l'approche équilibrée entre supply reduction, la réduction de la demande et la réduction de l'offre. Un exemple très précis, le Sénégal, qui depuis 2014 a établi le premier centre d'addictologie en Afrique de l'Ouest, où il y a des produits de substitution qui sont donnés aux gens qui vivent avec l'addiction aux drogues. Et ces efforts sont en train de se faire. La plupart des pays où nous travaillons, tels que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, sont en train de revoir leur cadre juridique pour permettre de donner ce support aux utilisateurs de drogues, aux gens qui sont tombés dans l'addiction. Et je pense que cet effort au niveau régional doit être reconnu.
Peut-être une toute dernière question, Cheikh Touré, concernant la sociologie des personnes, ces personnes victimes d'addiction au tramadol. On a vu que du côté des États-Unis, c'est peut-être une sociologie un petit peu différente de celle qu'on a l'habitude de voir avec d'autres drogues, avec des populations défavorisées qu'on trouve qui sont surreprésentées, ou des populations afro-américaines qui, là encore, sont surreprésentées. En ce qui concerne effectivement les opioïdes, on voit que c'est une sociologie très différente. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit aussi du côté de l'Afrique? Quelles sont, au fond, ces personnes concernées par ce glissement vers l'addiction au tramadol?
Bon, ce que nous avons vu, hein, et par rapport aux indications qu'on a, l'utilisation de Travelol est très prévalente dans tous les âges, hein, et genres. Et souvent, des jeunes enfants à l'école l'utilisent. Il y a aussi ceux qui font du travail lourd, hein, les miniers, les conducteurs de camions. Et en fait, ça touche toutes les couches, les chauffeurs de taxi, les fermiers, parce que c'est la méthode de marketing qui est utilisée pour vendre ce médicament. Voilà, c'est un médicament qui est vendu dans la rue au Burkina à 25 francs et qui dit que les gens deviennent plus forts et ça lutte contre la fatigue. Et donc, c'est ce type de marketing qui est utilisé dans ces pays qui amène à l'addiction. Et donc, c'est un peu le profil qu'on a dans les pays africains où il y a une prédominance dans l'utilisation du tramadol.
Ouais, c'est un petit peu comme tout à l'heure où on nous disait que le slogan, Romain Huret nous rappelait ça, le slogan aux États-Unis, c'est « Retrouver le swing ». Voilà, il y a toute cette question marketing qu'il y a derrière. Merci beaucoup, cher Touré, d'avoir été avec nous, coordinateur régional de l'ONUDC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Vous êtes basé à Dakar. Réaction peut-être en guise de conclusion, Daniel Hanequin, Romain Huret, sur ces propos que vous venez d'entendre. On voit que voilà, l'Afrique, oui. L'Amérique n'est pas, les États-Unis ne sont pas les seuls à y toucher. Hein.
Alors, le cas du tramadol, d'abord, c'est un morphinique du niveau 2, hein, c'est intermédiaire. Hein. C'est la codéine. Hein, c'est D'abord, en France, nous, on est, par contre, autant sur les paliers 3, sur l'oxy, tout ce qu'on vient de voir, on est un peu protégé par rapport à ce qui se passe dans les autres pays, mais nous, on est des surconsommateurs de palier 2, de codéine, et notamment, il y avait le diantalvic. Hein, bon, alors. Mais c'est sinon, interdit. Le problème du tramadol, c'est que dans les pays en Afrique et au Moyen-Orient, c'est pas du tout un antalgique, c'est un produit qui stimule, voire du Viagra, un stimulant sexuel. Et c'est quand même étonnant de voir que chez nous, quand ce produit, il y a beaucoup de gens, 25%, 20% de la population, quand ils prennent du tramadol, ils vomissent, ils sont dans les choux. Là-bas, c'est complètement différent. Mmh. C'est le même produit.
Romain Huret.
On voit bien que le traitement de la douleur est un problème mondial, hein, et que quelque chose est en train de se passer au 21e siècle. Il faudrait bien que les autorités politiques mondiales s'en emparent.
C'est pas le cas aujourd'hui, l'OMS ne fait rien. Daniel Hanequin, 20 secondes.
En effet, il y a beaucoup d'agences, notamment...
L'OMS fait quelque chose ?
Mais en effet, on voit bien que là, qu'on est dans l'intimité des pays, de l'industrie, des lobbies, de la corruption, il faut le dire. Enfin, ce qu'on parlait du pantouflage, parfois, la frontière est difficile à tracer. Hein. Donc voilà, je ne sais pas si ces grandes agences internationales peuvent en effet donner des repères, des guidelines, mais vraiment aller au fond du problème, changer les mentalités et les pratique, là c'est vraiment un autre problème.
Merci beaucoup, Daniel Hanequin, de nous avoir accompagné ce matin. Je rappelle que vous êtes psychiatre, anesthésiste, un spécialiste de la douleur. Vous étiez notamment responsable du plan douleur au ministère de la Santé dans les années 2000. Merci également à vous, Romain Huret, spécialiste des États-Unis, historien, directeur d'études à l'EHESS. Je rappellerai notamment l'Amérique pauvre qui était paru chez Thierry Magnier. Mais il faut rester aux aguets parce qu'il y a un ouvrage qui va paraître très bientôt dans quelques mois. Merci infiniment de nous avoir éclairé sur cette crise des opiacés, des opioïdes du côté des États-Unis. On poursuivra demain notre série consacrée aux épidémies. Mais pour l'heure, 11h53, c'est Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Suite et fin de vos chroniques consacrées à l'Algérie. Vous le disiez hier, Brice, plusieurs tentatives de réforme économique ont avorté récemment par manque de détermination politique. Cette fois-ci, il y a urgence.
Oui, selon Rabah Areski, l'économiste en chef de la Banque mondiale pour l'Afrique du Nord, les autorités qui hériteront du pouvoir en Algérie, quelles qu'elles soient, devront aller vite et prendre des mesures urgentes parce que la situation est préoccupante. Le capitalisme de copains, comme on dit, instauré par le régime au bénéfice de ses protégés, a asphyxié l'économie du pays. L'Algérie est fermée sur elle-même, mal insérée dans les flux de la mondialisation. Les grandes banques et nombre de grandes entreprises demeurent entre les mains d'un État mauvais gestionnaire. Plutôt que de moderniser ces compagnies afin de leur permettre d'affronter la concurrence, les gouvernements algériens ont misé sur des mesures protectionnistes censées protéger les entreprises amis du régime. De même, l'Algérie, malgré l'immense potentiel que constituent ses paysages et son son climat, a refusé de s'ouvrir au tourisme, contrairement à ses voisins comme le Maroc et la Tunisie, qui en tirent de substantielles devises. Toujours le même esprit de fermeture sur soi qui bloque les investissements étrangers. S'applique en Algérie la règle des 51-49. Dans toute joint venture réalisée en Algérie, les capitaux nationaux doivent obligatoirement demeurer majoritaires. Développer l'économie numérique, ajoute Reski, permettrait non seulement d'offrir des opportunités à une jeunesse algérienne bien branchée sur ces nouvelles technologies, mais cela aurait pour effet de faire tomber nombre de ces barrières qui bloquent le développement de l'Algérie en court-circuitant les obstacles mis en place par des bureaucraties. L'économie numérique permettrait d'améliorer en particulier le fonctionnement des transports, l'efficacité des services publics, les secteurs de la santé et de l'éducation. Mais le nouveau pouvoir aura intérêt à aller vite et à frapper fort, conclut Areski, car la société algérienne est impatiente.
Et Brice, dans le contexte actuel politique, des réformes de cette ampleur sont-elles envisageables ?
Oui, grâce à la détermination de la population. Il existe une réelle opportunité de mettre fin à un système qui, je le disais, a bloqué le développement de l'Algérie. C'est ce qu'estime notamment Ishaq Diwan. Le pays dispose d'atouts très puissants. Il demeure le troisième producteur de gaz de la planète. Sa population est jeune, dynamique, éduquée. Il peut compter sur une bureaucratie certes pléthorique mais dévouée. Les dettes sont faibles, les réserves de change quoiqu'entamée demeure importante, le pays doit s'engager dans une deuxième lutte de libération nationale, non pas cette fois contre une lointaine métropole coloniale, mais contre une petite élite politique qui s'est emparée des revenus du pétrole et du gaz afin d'assurer son contrôle sur le pays. Il faut libéraliser l'économie, estiment de nombreux économistes, afin de rendre leur chance aux individus et en particulier à ces millions de jeunes Algériens exclus du marché du travail et qui ne survivent que grâce au secteur informel, ne bénéficiant de ce fait d'aucune forme de protection sociale. Certains observateurs estiment en outre que la focalisation du clan au pouvoir sur la réélection de leur patron Bouteflika a été utilisée par une partie des milieux d'affaires pour s'affranchir de la tutelle politique et que ces entrepreneurs, réputés pour leur dynamisme, pourraient créer la surprise s'ils bénéficiaient enfin d'un environnement juridique favorable. Le prochain gouvernement, recommande ainsi Rabah Areski, devra renoncer à exercer un contrôle politique sur le secteur privé tout en accordant aux entreprises publiques l'autonomie de gestion dont elles ont besoin pour se développer. De son côté, le FMI recommande au prochain gouvernement algérien de dévaluer officiellement le dinar, dont la valeur réelle s'est effondrée ces dernières années sous l'effet des déséquilibres extérieurs, et surtout d'ouvrir enfin le pays aux investissements étrangers, alors que la politique menée jusqu'à présent a consisté précisément à le fermer. Car la classe politique, composée de vieux combattants de l'indépendance, est longtemps demeurée accrochée à un modèle périmé de développement auto-centré, une théorie qui date des années 60 et qui a fait manquer à l'Algérie ses chances de s'intégrer dans le processus de la mondialisation. Tout ce que les gouvernements récents ont fait ces dernières années a été de tenter de freiner les sorties de devises étrangères en imposant des restrictions aux importations. Les manifestants ne se contenteront pas du renoncement de Bouteflika à un cinquième mandat, lit-on dans Bloomberg. Ils veulent à présent mettre fin à un régime corrompu qui a abouti à concentrer les immenses richesses du pays entre les mains d'une poignée d'oligarques. Tout est possible en Algérie. Un pays qui pourrait nous étonner.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.